إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes frères, mes sœurs, nous continuons, inshallah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et par ses bienfaits, ces cours pour expliquer l'épître ou le petit écrit du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, qu'il a nommé les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. On a fait dans le premier cours la biographie du Cheikh ou quelques passages de sa vie. Dans le deuxième cours, nous avons expliqué, nous avons fait la biographie du Cheikh et commencé à expliquer la première leçon, l'importance de Sourate al-Fatiha, son sens et les sourates courtes du Coran. Puis nous avons expliqué dans la deuxième leçon le sens de l'attestation de foi, la ilaha illallah, nulle divinité ni d'adoration sauf Allah, les conditions de cette attestation de foi. Et aujourd'hui, nous arrivons à la deuxième partie de Shahadatayn, des deux attestations, qui est la Shahada que Muhammad est le messager d'Allah. Ça, subhanallah, ça montre la science du Cheikh qui commence par les bases. Car il a appelé cette épître « leçon importante pour l'ensemble de la communauté ». Effectivement, les premières choses que la communauté a besoin d'apprendre, c'est les bases de l'islam. Quelle est la première base de l'islam? C'est les deux témoignages de foi. Si déjà les musulmans, ils ne comprennent pas ce que veut dire « la ilaha illallah » et ils ne comprennent pas ce que veut dire « Muhammadur Rasulullah », tout ce qui va venir après, ça va être faux. Tout ce qui va venir après, ça ne peut pas être solide. Car ils n'ont pas compris déjà la base. Donc, l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, comme il est venu en arabe, « Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu »« Fahu abdun la yu'bad »« Wa rasulun la yukadhab » Donc, on atteste qu'il n'y ait nulle divinité digne d'adoration sauf Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Comme il est venu dans plusieurs versions véridiques. Son serviteur. Donc, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un serviteur, donc lui-même, on ne peut pas l'adorer. Car lui-même, il est adorateur et serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne le prend pas en adoration. Comme lui-même a mis en garde contre cela. Il a dit ne me prenez pas, ne me sanctifiez pas, ou ne me prenez pas en adoration. Comme les chrétiens ont pris Isa ibn Maryam, Isa le fils de Maryam, ou Jésus fils de Marie, en adoration. Ça, donc c'est un messager, un serviteur messager. Donc, serviteur, il ne peut pas être pris en adoration. Et messager, on ne peut pas rejeter ou traiter de mensonge ce avec quoi il est venu. Alayhi salat wa salam. Quand on dit, donc, tous les jours, dans At-Tashahud, la personne qui veut entrer en islam, elle fait, les doubles témoignages de foi. Mais en réalité, on voit clairement autour de nous que la communauté n'a pas compris ce que cela voulait dire, ce double témoignage. Et on les voit aller s'intéresser à d'autres choses en islam, alors que la base déjà, elle n'est pas comprise. Quand on dit qu'on atteste que le Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, le fils de Abdullah, est le messager d'Allah, ça veut dire quoi? Cela veut dire que nul en dehors de lui ne mérite d'être obéi et suivi sans une preuve. Et tout ce qui est suivi, tous ceux qui sont suivis en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans preuve du Coran et de la Sunna, alors ils sont suivis dans le faux. Alors ils sont suivis dans le faux. On les suit dans le faux. Allah tabaraka wa ta'ala nous a clairement dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-A'raf, verset 3, « Suivez ce qui vous a été révélé venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés autres que lui, mais vous vous souvenez que très peu. » Allah tabaraka wa ta'ala a mis en garde ceux qui ne veulent pas obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui veulent contrevenir à ses ordres, Allah, il jure, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants, tant qu'ils ne t'auront pas accepté, toi, ô Mohammed, comme juge dans leurs affaires. Puis qu'ils ne trouvent aucune gêne dans leur poitrine de ce que tu as jugé, et qu'ils s'y soumettent complètement. Et qu'ils s'y soumettent qu'ils se soumettent à ta sentence complètement. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans comme ça a été rapporté, comme Allah Ta'ala a dit dans Surat An-Nisa, verset 65. De même que Allah Ta'ala, il a dit que le croyant, il n'appartient pas à un croyant et une croyante. Quand Allah et son messager ont décidé quelque chose, d'avoir le choix dans cette chose-là. Une fois qu'Allah et son messager ils ont décidé quelque chose, c'est fini, tu n'as plus le choix dans cette chose-là. Comme Allah Ta'ala a dit dans Surat Al-Ahzab, dans le sens des versets, verset 36. Donc, barakallahu fikum. Ce que le messager d'Allah tabaraka ta'ala nous donne, comme Allah ta'ala a dit, ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, interdisez-le-vous à vous-même ou délaissez-le. Délaissez-le. D'ailleurs, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la sunna. La sunna, c'est une révélation. Comme le Coran, c'est une révélation. Le Coran, c'est Jibril qui l'a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole d'Allah. La sunna, c'est une révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Ce ne sont pas les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala mot à mot. La révélation vient d'Allah, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'explique. Donc tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ou fait parmi les choses de la religion, c'est à une révélation qui vient d'Allah. Allah dit dans le Coran, certes, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui a été donnée, alayhi salatu wasalam, qui lui a été révélée. D'ailleurs, dans le Coran, Allah a clairement stipulé que la sunna, c'est aussi une révélation. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et il a descendu sur toi, al-kitaba wal-hikma, le livre, et la sagesse, la sunna. Et il t'a enseigné ce que tu ne connaissais pas. Et certes, le bienfait d'Allah est sur toi très grand. Dans le sens des versets. Donc, dans ce verset, qu'est-ce qu'on a comme preuve? Que la sunna, c'est une révélation. Car Allah dit, il a descendu, il a révélé sur toi le livre et la sunna. Donc, la sunna aussi, c'est révélé. Wadih? Ça, c'est une réponse à une secte qui s'appelle le Qur'aniyoun. Ceux qui rejettent la sunna. Qui ne prennent pas les hadiths. On leur dit, comment vous priez alors? Allah, il n'a pas expliqué dans le Coran comment prier. Ils disent, non, nous, ça, la prière, c'est connu. on prie, c'est connu depuis le temps d'Ibrahim, comme ça, c'est connu. Mais eux, ils font yukharrifoun. Et les ulama, ils ont mis en garde contre cette secte qui est née en Inde, dans ce dernier siècle, qui a été répandue dans certains endroits. Et ils ont dit que clairement, celui qui n'accepte pas la sunna, c'est un kafir, c'est un mécréant. Donc les gens de cette secte-là, c'est des koufars, car ils ont rejeté une partie de la révélation. C'est comme s'il choisit ce qu'il veut, il prend ce qu'il veut, il rejette une autre partie. Dans un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, on m'a donné le Coran et une autre chose pareille avec, qui est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la sunna? Quand on dit sunna, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qu'il a fait et ce qu'il a approuvé et agréé. C'est ça la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On peut rajouter à tout cela aussi ses caractéristiques morales et physiques, alayhi salatu wa sallam. Ça peut rentrer aussi dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on a bien compris cela, comme on a expliqué auparavant que la ilaha illallah, elle a des conditions de validité. Quand on dit j'atteste qu'il n'y ait nulle divinité digne d'adoration sauf Allah, il y a des shurouts, des conditions pour que cette kalima, cette parole, elle soit valide. De même, Muhammadur Rasulullah, ça a des conditions de validité. Sans ces conditions-là, Muhammadur Rasulullah, il n'existe pas. Il n'est pas valide. Il n'est pas valable. Première condition, c'est reconnaître le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on dit reconnaître le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça comprend quoi? Ça comprend tout ce qu'il a, tout ce avec quoi il est venu de la part d'Allah, du Coran et de la Sunna. Parmi ce qu'il est venu, c'est que c'est le dernier prophète et messager. Il n'y a pas de prophète ni de messager après lui. C'est pas comme les sectes qui sont venues, comme les Bahaïstes, les Bahaïs, qui disent qu'ils ont eu un prophète qui s'appelle Bahauddin, je ne sais combien, je ne sais comment. Ou bien les Ahmadiyya, Qadianiyya, qui ont une mosquée ici à Saint-Prix dans le 95, qui disent que Mirza Ahmed en Inde, c'est un, pour eux, c'est comme un prophète, il a reçu la révélation. Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que ceux qui sont venus après lui, ils appellent le premier calife, le deuxième calife, comme Abu Bakr, Omar, Uthman. Ils ont fait la même chose. Naam. Donc que ce soit le Baha'iya ou l'Ahmadiyya, l'Qadianiyya, leur vrai nom c'est l'Qadianiyya. Ils ne méritent pas qu'on les appelle l'Ahmadiyya, l'Qadianiyya. Hein? Ahmadiyya, Ahmed c'est le pronom de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne méritent pas cet honneur-là. Hein? C'est juste parce que leur fondateur s'appelle Mirza Ahmed. D'ailleurs, barakallahu fik. Ouais, voilà. Comme le frère a dit, le sens Ghulam Ahmed, c'est-à-dire l'adorateur de Ahmed. Déjà, il y a du shirk dans son prénom. Al-Muhim, Al-Qadianiyya, plus connu sur l'Ahmadiyya, Al-Baha'iyya, aussi, ce sont pas des sectes musulmanes, c'est des gens qui sont sortis de l'islam. Bi-Ijma'il Muslimin. Tout le monde, il y a consensus sur cela, que ce sont des koufars. D'ailleurs, Al-Qadianiyya, ils disent qu'Allah, il parle anglais. Hein? Que Allah, il parle anglais, ils ont des croyances qu'Allah, il ressemble à un homme, comme s'il était, comme un peu les croyances des chrétiens, que la langue bénie, c'est l'anglais. D'ailleurs, comme il a été clairement prouvé qu'en fait, cette secte, elle a été inventée par les colonisateurs anglais pour empêcher les gens de faire le djihad, parce qu'ils disent que le djihad, il n'existe pas. Donc pour ne pas repousser les colons qui étaient venus, ou bien les Anglais qui étaient justement en Inde. Non. Donc pour empêcher les musulmans qui étaient là-bas, car les musulmans avant ils étaient majoritaires avant d'être partagés, avant que les Anglais ne partagent les musulmans là-bas entre Bangladesh, Inde et Pakistan, les majoritaires c'était les musulmans. Donc pour éviter que les musulmans soient majoritaires et qu'ils contrôlent le pays, ils les ont divisés. Et maintenant, l'ajib, c'est que des musulmans indiens, des musulmans pakistanais, ils se détestent. Ça, c'est ajib. C'est incroyable, ça. Donc, subhanallah, leur plan, il a marché. Comme d'ailleurs au Maghreb. Hein? Mettre des limites, tout ça. Il n'y avait pas toutes ces limites, des traits tracés comme ça à la règle. Vous croyez que c'est... Qui a fait ces limites-là? Hein? Que ce soit le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie, etc., l'Algérie, tout ça, c'était le Maghreb. Et même en vérité, entre tous les pays musulmans du monde, normalement, il n'y a pas de frontière. Que ce soit de la Chine jusqu'en Andalousie, c'est un pays. C'est Dawlat al-Islam. C'est ça la réalité des choses. Toutes ces limites et ces partages, ma'al asaf, ça a divisé et affaibli encore plus la communauté. Taïb, on revient donc aux conditions de validité de Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, c'est reconnaître son message, alayhi salatu wa sallam. Ça, c'est la première condition. Donc, tous ceux qui vont venir te dire qu'il y a un autre prophète qui vient après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut lui expliquer. Fais attention, parce que là, tu es en train de dire le contraire du Coran. Tu es en train, tu kadhibu le Coran, tu traites de mensonge le Coran. Donc, en faisant ça, tu deviens un kafir. Il faut faire attention à ce que tu racontes. Donc, tous ceux qui viennent dire ça, déjà, on ne le croit pas. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour toute l'humanité, même s'il est mort, mais derrière lui, sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé son message en héritage. Et les califes, les compagnons et les ulama, ils l'ont transmis jusqu'à aujourd'hui, walhamdulillah, walillahi alhamd. La deuxième condition, c'est le fait de prononcer cette attestation-là avec la langue, celui qui est capable. Le muet, on ne lui demande pas ça. Et donc la preuve de ce qu'on vient de dire, certes les croyants sont ceux qui ont cru à Allah et à son messager, puis qui n'ont pas de doute. Donc, dans le fait que Allah ait dit, ils ont cru en Allah et son messager, c'est-à-dire qu'ils ont accepté son message, ils ont cru en son message. Allah tabaraka wa ta'ala, donc cela c'est dans Surat al-Hujurat, verset 15. Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi dans Surat al-Baqarah, voilà les versets d'Allah que nous te récitons avec la vérité, il parle au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et certes tu fais partie des envoyés, des messagers, alayhi salat wa sallam. La troisième condition de validité de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah, c'est le fait de se conformer à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Se conformer à sa tradition, sallallahu alayhi wa sallam. En œuvrant et en pratiquant ce avec quoi il est venu comme vérité, et comme preuve évidente de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, et en délaissant ce qu'il a interdit comme chose fausse, alayhi salat wa salam. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat Ali Imran verset 31, dit au Muhammad, c'est-à-dire Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit au Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera, et il vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ceux qui prétendent aimer Allah et qui ne suivent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, en réalité, ils n'aiment pas vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Car si ils aimaient vraiment Allah, ils suivraient le messager qu'Allah a choisi pour l'humanité, l'exemple, le meilleur des hommes, alayhi salat wa sallam. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-A'raf, verset 158, il dit « Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. » Donc Allah ta'ala nous a clairement ordonné de le suivre et de lui obéir. La quatrième condition pour que cette attestation de foi soit réelle et valide, c'est de fait de considérer comme véridique, comme vrai, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé comme nouvelles. Que ce soit les nouvelles du passé, ou les nouvelles du futur, ou les nouvelles de l'invisible, ou les nouvelles du monde dans la tombe, ou les nouvelles du jour du jugement, ou les nouvelles du paradis, ou les nouvelles de l'enfer, ou bien concernant les qualités d'Allah, ou les qualités, les caractéristiques des anges, tout ce qui fait partie des informations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informées, on doit y croire. On doit le considérer véridique, même si notre cerveau il comprend pas. Par exemple, il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit des choses sur Allah, comme le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah descend dans le dernier tiers de la nuit, et il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande pardon pour que je lui pardonne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande quelque chose pour que je lui donne? Donc nous on croit dans cette nouvelle qui a été rapportée de chaînes de transmission véridiques, que Allah descend au ciel de ce monde, mais d'une manière que seul Allah connaît. On y croit et on l'affirme, mais on ne sait pas comment. Et on ne demande pas comment. Il n'y a que les philosophes et les gens qui ont la foi faible ou les égarés qui demandent comment. Ils veulent rentrer Allah tabaraka wa ta'ala dans leur considération à eux ou dans leur logique à eux. Depuis qu'ils ont connu la philosophie, depuis le temps des Mu'tazila, qui ont étudié la philosophie grecque, ça y est, ça a ouvert la porte à toutes les brèches. Alors aujourd'hui, ils commencent à te faire de la philosophie. Oui, mais non, ce hadith, moi j'accepte pas. Il accepte pas quoi? La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, c'est comme s'il disait, moi je connais mieux Allah que le prophète. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a informé comment il est Allah. Et toi, t'acceptes pas. Ça veut dire quoi? Comme si tu disais, moi je connais mieux Allah que le prophète. Tu t'imagines comment c'est grave? Donc ils disent quoi? Non mais c'est pas possible. Quand il fait nuit dans tel endroit ici, il fait jour. Alors comment il descend partout en même temps? Alors ils veulent te mettre des doutes comme ça. Non, on lui dit, ya makhlouq, ya da'if, ya miskin. Comment tu veux, toi, mettre en pratique les règles de dunya, les règles du temps et les règles des lieux qui sont actifs sur nous, sur Allah, le créateur des cieux, de la terre, de toutes choses. Toi-même, tu dis des mensonges, tu dis Allah n'a pas de lieu, n'a pas d'endroit. Après, derrière, tu viens, tu dis comment il peut être dans tel endroit et tel endroit en même temps. Donc, ils se contredisent eux-mêmes. Parmi ceux qui disent ça, qui ont été touchés par les croyances des Mu'tazila, qui ont été eux-mêmes touchés par la philosophie grecque, il y a le Kullabi, hein, ce qu'on appelle les Ash'arites aujourd'hui. Mais en vérité, c'est le Kullabi. Hein. Ou bien les Maturidi. Hein. Ou bien aujourd'hui, il y a une secte contemporaine qui a repris cette croyance, c'est les Ahbash. D'ailleurs, ils sont actifs partout, vous les trouvez. Vous les trouvez dans tous les centres commerciaux en train de vendre des calendriers. Souvent, ils mettent, mashallah, une jeune sœur avec du maquillage, avec un beau sourire. Mon frère, vous achetez, c'est pour association de paix et de bienfaisance ou je ne sais quoi. Ils viennent tromper les gens avec leur nom d'association. APBIF, association de Al-Muhim, de bienfaisance, etc. Et ils vendent leur calendrier. Et dans leur calendrier, c'est rempli de ces innovations-là. C'est rempli de ces innovations-là. Sans parler des autres innovations qu'ils ont, leur croyance sur sur les compagnons, ils insultent Muawiya, ils permettent ils sont très proches des Rafida, des Shia sur certaines croyances, ils permettent des choses incroyables en islam, ils prétendent qu'ils suivent le madhab de l'imam Shafi'i, alors qu'en réalité, tout ce qu'ils disent, ça n'a rien à voir avec l'imam Shafi'i et les Shafi'iyya, ils se désavouent de ces gens-là. Faut le savoir. Mais eux, ils trompent les gens. Non, nous, on suit le madhab de l'imam Shafi'i. Le fondateur de cette secte, c'est Abdullah al-Harari. Non, c'est pas un Libanais. Il a vécu au Liban, mais c'est un Habashi. C'est un Habashi. C'est pour ça qu'on les appelle Ahbash. C'est un Éthiopien qui a fait quoi? Quand il était en Éthiopie, il avait vendu tous les savants de l'islam aux colonisateurs et il avait fait une grosse fitna. Et il s'est enfui de là-bas parce que sa tête a été mise à prix. Et il a été au Liban, il a profité du fait que dans le Liban, c'était la guerre civile, l'ignorance, elle régnait, pour répandre son poison. Et aujourd'hui, ils sont très actifs dans les pays occidentaux, et vraiment leur centre où ils sont très actifs, c'est au Liban. Ces gens-là, quand ils viennent à la Mecque, ils prient pas à la mosquée. Ils prient dans l'hôtel. Toute la journée, ils chantent et dansent, c'est tout. En groupe, hommes et femmes. C'est ça leur religion. Ils veulent pas prier derrière les imams de la Mecque. Pour eux, c'est des koufars. C'est des mécréants. Pour eux, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, c'est un kafir. Pour eux, les grands savants de l'Islam, tous ceux qui ont dit qu'Allah, il s'est établi sur le trône, comme Allah a dit dans le Coran, c'est un kafir. Pour eux, celui qui dit qu'Allah, quand tu dis le visage d'Allah, t'es un kafir. Tu dis qu'Allah, il a un visage, t'es un kafir. Voilà comment ils sont. Et ils sont actifs un peu partout. Alors attention à eux. De même, permettre de prendre aide auprès des morts. Et le tawassul qui est interdit, le fait de demander par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou par les saints. Et d'ailleurs, attention à eux, dans 20 jours, là, dans la fête de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais oh là là, ils prennent une grande salle, ils font une grosse soirée. Ils font une grosse soirée, les jeunes, ils dansent la nuit, mashallah, et ils distribuent des tracts, soi-disant pour dire non, c'est permis de faire l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une bonne bid'a. c'est une bonne innovation, c'est pas une mauvaise innovation. Donc, on doit rendre véridique tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Même sur des nouvelles que notre cerveau ne comprend pas, quand il nous informe sur Allah, ou sur l'invisible, ou sur les anges, ou etc. Wadih, inshallah, ça c'est important. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sahih, rapporté par le Bukhari et Muslim. Et d'ailleurs, ça répond à ces gens-là en même temps. Selon Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne me faites-vous donc pas confiance alors que je suis l'homme de confiance de celui qui est au-dessus des cieux et dont les nouvelles du ciel me parviennent matin et soir. Donc même dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe bien déjà qu'il faut lui faire confiance car c'est lui qui reçoit la révélation d'Allah matin et soir. Et il a dit des nouvelles de celui qui est fils sama. Je suis le digne de confiance de celui qui est au ciel. C'est pas au ciel dans les nuages. Quand tu dis au ciel, Allah, il est au ciel. C'est pas dans les nuages. Ça veut dire, il est au-dessus de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Il est au-dessus de toutes ses créatures. Il ne se mélange pas à ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Non. La cinquième condition parmi les conditions de validité de Muhammadun Rasulullah, c'est qu'on doit aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit l'aimer plus que nos parents, plus que nos enfants, plus que nos amis, plus que nos épouses, plus que nous-mêmes. Plus que nous-mêmes. Mais est-ce que aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire l'adorer, comme certains y font, au lieu de dire Ya Allah, ils disent Ya Rasulallah. Quand ils arrivent devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se prosternent. Ils font dua vers la tombe au lieu de faire la dua vers la Kaaba. Ça veut dire aimer le prophète. Ça veut dire l'insulter. Ça ne veut pas dire l'aimer. Ça veut dire tu l'insultes. Parce que ça veut dire tu as jeté derrière toi tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné. De ne pas donner d'associer à Allah. Ça veut dire que tu as trahi l'islam qu'il t'a laissé, tu l'as changé. Et t'es devenu mouchrik comme les Quraysh. Et après tu dis que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ça se manifeste seulement en fêtant son anniversaire? C'est facile ça. Boire, manger, mashallah, faire des chants, les hommes et les femmes mélangés, Allahu Akbar. C'est quoi ça? C'est une discothèque. C'est pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les jours, tu désobéis à ses ordres, tu n'as rien de la sunna dans ta vie, ni en apparence, ni en intérieur, ni en pratique, tu délaisses combien de choses d'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et après, tu dis, ah, moi j'aime le prophète, je vais fêter son anniversaire. Si t'aimes vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, obéis-lui. Arrête-toi là où il t'a dit d'arrêter. Arrête-toi là où il t'a dit d'arrêter. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi nous on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tiens, je voudrais moi quelqu'un me donne une réponse ici. Pourquoi on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi on l'aime? On l'aime parce qu'Allah l'aime. Pour Allah, parce que c'est la créature qu'il aime le plus, donc nous on l'aime. Pour Allah. On l'aime pas avec Allah. On le met pas associé avec Allah. Vous avez compris la différence? On l'aime pour Allah. Si Allah l'avait pas aimé, on l'aimerait pas. C'est comme ça. On l'a aimé parce qu'Allah l'a choisi et l'a aimé. Il l'a choisi pour être le meilleur des hommes. Pour être son messager. Pour être l'imam des prophètes et des messagers. Donc nous, on l'aime parce qu'Allah l'a aimé. On l'aime parce qu'Allah l'a choisi pour être le meilleur des hommes, pour être notre guide. Et parce qu'Allah nous a ordonné de l'aimer. Donc on l'aime par obéissance pour Allah. Vous avez compris la différence entre ceux qui l'ont pris comme divinité en dehors d'Allah et nous qui l'aimons, Inch'Allah, qu'Allah nous donne cet amour véridique, qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous-mêmes, plus que nos parents, plus que nos enfants et plus que l'humanité entière. Car quelqu'un ne sera pas véritablement croyant tant qu'il n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute chose. Chez le croyant, il doit d'abord aimer Allah plus que tout. Puis, le prophète parmi les créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus que tout le monde. Donc, qu'on comprenne bien, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un acte d'adoration. C'est un acte avec lequel on demande le paradis. C'est un acte avec lequel on obéit à Allah. Ça veut dire on répond à une demande qu'Allah nous a faite. Wa'adah, inshallah, ça c'est important de comprendre ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, rapporté par le Bukhari et Muslim, le hadith de Anas ibn Malik, « Aucun de vous ne sera complètement croyant tant que je ne lui serai pas plus cher que son père, ses enfants et l'humanité entière. » Dans un autre hadith sahih, rapporté par le Bukhari, Abdullah ibn Hisham a dit, « Nous étions avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il tenait la main de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. » Omar dit, « Ô messager d'Allah, à part ma propre personne, tu es celui que j'aime le plus au monde, plus que toute chose. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, non, par celui qui détient mon âme dans sa main, tu ne seras pas parfaitement croyant que lorsque tu m'aimeras plus que ta propre personne. Alors Omar, quand il a entendu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu tout de suite et il a dit, alors, maintenant, par Allah, je t'aime plus que ma propre personne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, maintenant, oh Omar, maintenant, c'est-à-dire maintenant, t'es un vrai, un parfait croyant. Allah Ta'ala dit, le prophète est prioritaire pour les croyants que leur propre personne. Et ces femmes sont leurs mères, ce sont les mères des croyants. Radiallahu anhun. Naam. La sixième condition de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, c'est le fait qu'on fait prévaloir la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur celle de toute autre personne, quelle que soit cette personne, et qu'on mette en pratique sa sunna. Naam. Allah tabarak wa ta'ala dit dans sourate al-Hujurat, premier verset, « Oh vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah, certes Allah est audient et omniscient. » C'est-à-dire quoi devancer? C'est-à-dire que tu fais une chose avant même de chercher à savoir ce que Allah et son prophète a dit. Ou tu fais une chose sans mettre la parole d'Allah en priorité ou la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en priorité. Pourquoi on dit cela? Aujourd'hui, on a des gens, les savants viennent leur expliquer, voilà la manière de pratiquer telle ou telle chose, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, avec des chaînes de transmission véridiques. Lui dit, non, non, moi je suis mon imam. Taïb, tu suis ton imam, t'es un musulman. Oui. Tu attestes que Mohammed est le messager d'Allah? Oui. Moi, je te dis que Mohammed, ton messager à toi et mon messager à moi, il t'a dit, ne fais pas telle chose. Il dit, oui, oui, mais moi, je le fais. Moi, j'écoute mon imam. Est-ce que celui-là, il a compris qu'est-ce que ça veut dire Mohammedun Rasulullah? Il n'a pas compris. Vous savez que les grands savants de l'islam, les grands imams des quatre écoles, des madhahib, de chaque madhab, que ce soit Abu Hanifa, que ce soit l'imam Malik, que ce soit l'imam Shafi'i ou Ahmad ibn Hanbal, personne d'entre eux, il a demandé aux gens de faire une école à leur nom. Personne d'entre eux, il a dit, tu écoutes ma parole et t'écoutes pas la parole de quelqu'un d'autre. Leurs propres élèves, ils étaient pas d'accord avec eux sur plein de points. Abu Hanifa, il avait parmi ses élèves, Abu Yusuf, et Mohammed ibn Hassan al-Shibani, ou Zufar, tous ceux-là, ils étaient même pas d'accord avec lui. Ils ont donné des avis qui sont pas les avis d'Abu Hanifa. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, il a étudié 20 ans chez l'imam Malik. Et après, il a eu ses propres avis. Son cher, c'est l'imam Malik. Et aujourd'hui, on nous dit, non, t'es obligé d'écouter tout ce que ton imam il dit, t'as pas le droit de sortir de ce que ton imam il dit. Celui qui dit ça, il ment sur Allah et son messager. Attention, les quatre imams des quatre écoles, ce sont des grands savants. Ce sont des gens qu'Allah a choisis pour nous expliquer l'islam. Mais ce ne sont pas des prophètes. Ils ne sont pas infaillibles. Même l'imam Malik, il a dit, « Min kullin yu'khadh wa yurad. » De chaque personne, on peut accepter leurs paroles ou les rejeter. Sauf du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Abu Hanifa, il a dit, « Il n'est pas permis à quelqu'un de prendre ma fatwa sans savoir d'où je l'ai pris. » Sans savoir d'où je l'ai pris, c'est-à-dire sa preuve,
son dalil. Parce qu'il a dit, nous sommes des hommes. Aujourd'hui, je peux avoir un avis et demain, je change d'avis. Demain, aujourd'hui, je pensais que c'était, par exemple, telle chose, c'était telle manière de faire la sunna. Quand je recherche plus loin ou j'entends un autre hadith, alors je change d'avis, je dis non, en fin de compte, c'est comme ça. L'imam Malik aussi l'a dit, clairement. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il a dit, s'il y a un hadith véridique qui contredit ma parole, jetez ma parole contre le mur. Et prenez ce que le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il a même dit, s'il y a un hadith véridique qui dit le contraire de ce que j'ai dit, alors je reviens sur ma parole que je sois vivant ou mort. Il a même dit, c'est mon madhab. L'imam Ahmad ibn Hanbal aussi, il l'a dit. On a besoin de ces savants pour comprendre le Coran et la Sunna, car ils nous l'ont expliqué. Mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de prendre que de un d'entre eux, tout, d'une école. Tu as besoin d'eux, car c'est des grands savants, mais ce n'est pas des prophètes. Chacun d'entre eux, il peut se tromper. Donc quand il y a un avis sur lequel il est clair qu'ils se sont trompés, et les autres savants, ils ont ramené d'autres preuves avec des hadiths véridiques, tu laisses la parole de l'imam et tu prends la parole où il y a d'autres, d'un autre imam où il y a des preuves. Car c'est ce que l'imam il t'a dit. Avant lui, c'est ce que Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit. Car l'imam, il n'a fait que répéter ce que Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit. Naam. Il faut savoir pourquoi. Les gens ils vont dire, oui, mais c'était des grands savants. Comment il peut se tromper? Premièrement, c'est un homme. Il n'est pas infaillible. Il n'a pas la révélation comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il peut se tromper. Deuxièmement, il faut savoir que chacun il était dans un pays précis. Certains ils ont voyagé, certains ils ont peu voyagé. Ils ont expliqué l'islam selon ce à quoi ils avaient accès. Par exemple, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il était à Koufa. Et à Koufa, en Irak, déjà c'est le plus ancien chronologiquement par rapport aux autres, aux trois autres imams. Et à Koufa, c'était Abdullah ibn Mas'ud qui était parti là-bas. Et il a laissé des élèves. Et ces élèves, ils ont transmis à Ahmad, et etc. Et ils ont transmis à Abu Hanifa. Mais il y a d'autres sahaba par Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Amar, Abdullah ibn Amr ibn al-As et tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des dizaines de milliers. Il y en a, ils sont partis au Yémen, il y en a, ils sont partis en Égypte, il y en a, ils sont restés à Médine, il y en a, ils ont été à la Mecque, il y en a, ils ont été au Cham, il y en a, ils ont été partout. Donc, Abdullah ibn Mas'ud à lui-même, il n'a pas toutes les versions, tous les hadiths, toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rapporté, lui et les gens qui ont été en Irak, que ceux que eux, ils ont rapporté, que ceux que eux, ils ont vu ou ils ont appris. Donc, l'imam Abu Hanifa, il a agi avec ce qu'il avait. Et certains hadiths, ils n'avaient pas eu accès. Ils les ont connus qu'après. Avant, c'est pas comme maintenant, un coup de fil, internet, tous les livres, ils étaient édités. Ça n'existait pas, ça. Même les hadiths, ils n'étaient pas tous réunis. Parmi les premiers qui a réuni tous les hadiths, c'est l'imam Malik. Vraiment, le moment où tous les hadiths, ils ont été réunis, les muhaddithines, c'est venu après les imams. Vers la fin, l'imam Ahmed ibn Hanbal, ça fait partie de Muhaddithin qui a réuni dans Al-Musnad, Al-Bukhari, etc. Tous, ils ont été après les imams. Donc, ils font savoir qu'il y a beaucoup d'ahadiths qu'ils n'avaient pas accès. Premièrement. Deuxièmement, des fois, ils avaient des hadiths où ils avaient accès à ce hadith. Mais, il faut savoir, les hadiths, ils sont rapportés de plusieurs chaînes de transmission. Lui, la chaîne qui lui est arrivée à lui, il voit qu'elle n'est pas sûre. Donc, il a délaissé ce hadith en pensant qu'il n'était pas sûr. Mais d'autres personnes, à part celui qui lui a emmené, ils l'ont ramené d'autres chaînes de transmission qui sont véridiques. Autre part, pas à lui. Ils l'ont rapporté à d'autres personnes. Donc lui, il va te dire, ce hadith, il est daif. On le pratique pas. C'est son effort par rapport à celui qu'on lui a apporté. Mais d'autres savants, ils ont eu des chaînes de transmission véridiques de ce hadith. Et ils ont appris, ils ont appliqué ce hadith. Le masque, surtout sur le dessus des roufs. Certains disent que tu fais en dessous, par exemple. Il y a un hadith sur ça. L'imam Abu Hanifa, il a refusé le hadith sur le témoignage, alors qu'il est sahih. Pour lui, il n'était pas sahih, ou bien il n'a pas connu ce hadith. L'imam Malik, rahimahullah, il disait que c'était détestable de jeûner les six jours de Shawwal. T'imagines? Alors que c'est un hadith sahih. Il disait que c'était recommandé de jeûner le Jumu'ah tout seul. Alors qu'il y a des hadiths sahih dans le Bukhari, Muslim, Muttafaqun alayh, qui disent qu'il ne faut pas jeûner le Jumu'ah tout seul. L'imam Shafi'i, il dit qu'en touchant juste la femme, tu perds les ablutions. Direct, tu la touches juste avec ta main comme ça. Alors qu'il y a plein d'ahadiths qui prouvent le contraire. L'imam Ahmad ibn Hanbal,
voyez le fait de jeûner le jour du doute.
Pour Ramadan, alors qu'il y a des hadiths qui interdisent de jeûner le jour du doute. Donc, ça montre qu'ils ne sont pas infaillibles. Ce n'est pas pour diminuer de leur valeur, mais ça montre qu'ils ne sont pas infaillibles. Qu'ils ont délaissé des pratiques de même des hadiths qui sont dans le Bukhari et Muslim. Donc, alhamdoulilah, leurs élèves, les élèves de leurs élèves, d'autres savants, ils sont venus, ils ont travaillé après eux. Ils ont essayé de reconnaître ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, revenir sur certains avis, appuyer d'autres avis. Et c'est ce que les savants ils font jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, barakallahu fikoum, quand tu vas demander un avis, toi, tu es un commun des musulmans. Tu dis pas, ah moi je suis Hanbali, je suis Maliki, je ne cherche qu'un savant Maliki. Allez, trouve-moi un savant Maliki. Tu cherches, barakallahu fik, un savant qui connaît la science profondément et qui craint Allah et qui s'attache à la sunna. Peu importe s'il a appris dans tel ou tel madhab. L'important c'est que c'est quelqu'un de la sunna et qui s'attache au Coran et à la sunna, qui revient au haqq, qui revient au hadith. Même si lui, il a été éduqué, par exemple, dans un madhab comme le madhab Maliki ou le madhab Hanbali, dans son éducation, dans son enseignement, mais il n'est pas resté bloqué, les yeux fermés, aveuglément dans ça. Il a été prêt à délaisser les paroles de son école juridique pour revenir à la vérité. Et c'est ça, tous les savants, ils sont comme ça. Tous les savants de la sunna, ils sont comme ça, walhamdulillah. À toutes les époques. Même s'ils avaient leur éducation ou leur enseignement sur un madhab au début, pour l'apprentissage de la science, ça, il n'y a pas de mal en cela. Mais ils ne sont pas restés fermés et bloqués et aveuglés sur ces avis-là. Quand ils voyaient qu'il y avait des avis sur lesquels il y avait des preuves plus fortes et plus probantes du Coran et de la Sunna, ils délaissaient l'avis de leur école juridique et ils prenaient un autre avis. Est-ce que c'est clair, Inch'Allah? Taïb. Donc c'est ça quand on dit on devance la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur toutes les paroles. Notre imam à nous, c'est Mohammed ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui notre imam, alayhi salatu wa sallam. Et les grands savants, on les respecte. Parce que Allah nous a demandé de les respecter. Et on suit leurs avis parce qu'ils font partie des meilleurs siècles. Et on comprend l'islam à travers eux. Et d'ailleurs, il n'y a pas que eux quatre. Il y avait d'autres grands savants à leur époque aussi qui étaient connus. Comme Layth ibn Sa'd, ou bien Al-Awza'i, ou bien Sufyan al-Thawri, ou bien Hassan al-Basri, etc. Donc il y avait beaucoup de savants parmi les plus prédécesseurs. Mais ils n'ont pas eu, après, des gens, ils n'ont pas fait une école juridique derrière eux. Mais c'était de grands savants. L'imam Shafi'i dit de Layth ibn Sa'd, il dit, je pense que Layth, il est plus savant que Malik. Pourtant, il n'a pas eu d'école juridique derrière. C'est comme ça. Wadih, Inch'Allah, Taïb. La septième condition, parmi les conditions du fait d'attester que Mohammed, c'est le messager d'Allah, c'est le fait d'honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le considérer et de l'estimer. Ça veut dire on n'a pas le droit de le mépriser, de le rabaisser ou de penser du mal ou de dire des mauvaises paroles sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit ça, il a contredit le fait que Mohammed c'est le messager d'Allah. Et on doit aimer aussi ce qu'il a apporté et respecter la sunna avec laquelle il est venu. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu sais qu'il était barbu, tu sais qu'il utilisait le siwak. Tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait de telle manière, il faisait telle chose, il aimait telle chose. Tu dois aimer aussi ces choses-là. Tu dois aimer, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux hommes de sa communauté de laisser la barbe et de tailler la moustache. Donc tu dois aimer la sunna. Tu dois aimer le siwak. Tu dois aimer les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a encouragé ou ordonné de faire. Même si tu as des manquements, si quelqu'un a des manquements, il ne le fait pas parce qu'il est faible, mais il doit les aimer. Et il doit faire l'effort sur lui-même pour pouvoir, Inch'Allah, les pratiquer. Non. La preuve de cela, c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, où il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certes, nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, pour que vous l'honoriez et reconnaissiez sa dignité. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, comme il a été dit dans Surat Al-Fath, versets 8 et 9. Voilà ce que ça veut dire, barakallahu fikoum, d'attester que Mohammed, c'est le messager d'Allah. Donc, si on a bien compris cela, est-ce qu'on va rajouter des choses à sa religion? Est-ce qu'on va essayer de prendre des exemples ou des modèles ou des guides autres que lui? Non. Le guide, le modèle, l'exemple pour l'humanité entière, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et pour tous les temps. Ce avec quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu, c'est valable pour toutes les époques. Et pour tous les hommes. C'est pas la religion des indigènes des hommes non blancs, des, mashallah, des noirs, des pakistanais et des arabes. Allah tabarak wa ta'ala, il a créé les français, les chinois, les américains, les arabes, les pakistanais. Tout ça, c'est des serviteurs d'Allah. Et il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour tous ces gens-là. Celui qui l'aimera, qui croira en son message et qui le suivra, il va réussir. Celui qui ne l'acceptera pas et qui va s'enorgueillir et qui va le délaisser et qui va l'insulter, alors il a sa place en enfer. Et il ne fait pas du mal à Allah tabarak wa ta'ala. En rien. Laisse-le se pavaner aujourd'hui, le jour du jugement dernier, on verra. Comme Allah tabarak wa ta'ala dit, aujourd'hui, les croyants se moqueront des mécréants. Ils seront sur des divans en train de regarder. Est-ce que les mécréants n'ont pas reçu comme comme récompense ce qu'ils faisaient comme acte en juste récompense? Si. Donc aujourd'hui ils se moquent de nous. Quand ils voient des croyants, ils font des signes, ils font des têtes. Quand ils voient mashallah des femmes voilées ou des hommes, ils le regardent comme un homme sortant du désert, qui est inculte, qui comprend rien, qui ne vit pas avec son temps. Etc. Mais, Inch'Allah, nous on espère qu'Allah va leur ouvrir leur poitrine et les guider. Mais s'ils veulent rester comme ça, un jour nous aussi on se moquera d'eux, ce sera le jour du jugement dernier. Ce sera le jour du jugement dernier. Fansallah tabaraka wa ta'ala yuwaffiqana jami'an ma yuhibbu warda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alameen.